Salut tout le monde, bienvenue dans COP Paris, votre rendez-vous d'infos, d'actu du lundi soir autour du Paris Saint-Germain. L'équipe ce soir, composée de Jonathan Ferdinand, journaliste à Oh My Goal et Passion Saint-Germain.
Salut
Jonathan.
Salut Ben.
Salut.
Ben c'est Benjamin. Benjamin Potier, supporter du Paris Saint-Germain. Salut Benjamin.
Salut Thibaut.
Bravo pour le triplé ce week-end.
Voilà, ouais.
Triplé de Air League à Land, il y a un petit quelque chose, effectivement.
Il y a un petit quelque chose, c'est vrai. Ouais. J'avais les cheveux longs avant, j'ai coupé depuis que quelques Anglais alcoolisés m'ont demandé quelques selfies, du coup.
Un peu moins grand, un peu moins...
Un peu moins buteur.
Un peu moins buteur, surtout. Bon, vous êtes en forme, les gars? Plutôt, justement, Air League à Land, plutôt Ekitike, on est dans quelle forme ce soir?
Plutôt à Land, non?
Ouais.
Bonne nouvelle. Paris s'est donc imposé samedi soir au Parc des Princes, 2-1, petite victoire contre Nice, mais grand Léo Messi, une fois de plus, cette saison, on est peut-être en train de commencer à retrouver le vrai Messi, celui qui jouait à Barcelone, celui d'avant le Paris Saint-Germain, à tel point que Christophe Galtier a dit de lui, après le match, qu'il pourrait redevenir le meilleur joueur du monde. Alors, est-ce que c'est possible? Est-ce que Messi peut redevenir le meilleur? Ce sera notre premier thème. En revanche, on en a parlé un petit peu, Hugo Ekitike a déçu. Il était titulaire pour la première fois. Il n'a pas réussi grand-chose, le jeune attaquant. Après sa décharge, il avait très peu joué auparavant. Et justement, ma question ce soir, Ekitike est-il mal géré? On en débat en deuxième partie d'émission. Et puis, comme tous les lundis, on verra ce qu'ont fait nos clubs franciliens ce week-end, tous sports confondus, notamment en rugby ou en handball. Aujourd'hui, vos commentaires, si vous le voulez, sur Twitter, réseaux sociaux, hashtag COP Paris, je vous lis. Venez participer à nos débats qui commencent maintenant. On dit merci qui? Merci Messi. Ce week-end, le Paris Saint-Germain n'a pas fait son meilleur match de la saison au Parc des Princes contre le GC Nice, mais Messi a brillé au cours de cette victoire 2-1. C'est lui qui a ouvert le score à la 29e minute sur ce magnifique coup franc direct, le 60e de sa carrière. Le premier avec le Paris Saint-Germain. On l'a vu aussi, outre ce coup franc plus mobile, plus tranchant, plus souriant aussi, comportement. C'est ce qu'on constate depuis quelques semaines. Bref, un Messi qu'on ne connaît pas trop à Paris, finalement. Peut-il redevenir le meilleur joueur du monde? C'est la question qui a été posée à Christophe Galtier en conférence de presse après ce match.
Oui, s'il est dans un état de forme incroyable, je touche du bois, parce que bon, il est heureux, et quand Léo est heureux, il est automatiquement performant, et quand il est performant, il peut retrouver les standards qui étaient les siens sur les saisons précédentes. Pas sur les saisons précédentes, tout au long.
Christophe Galtier, ce week-end, peut-il devenir meilleur joueur du monde? C'est donc oui pour l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Et pour vous, les gars?
Pour moi, c'est oui. Moi, je suis un petit peu plus mitigé là-dessus, mais c'est plutôt non.
Pourquoi oui?
Parce
à 35
que...
ans, malgré
Parce
la concurrence
que...
qui est là.
Depuis 10 ans, Messi, c'est un joueur qui ne court pas beaucoup, qui facilite le jeu, qui a besoin d'une touche de balle, 2-3 dribbles pour accélérer le jeu. Et il est capable, à 35 ans, d'avoir cette faculté à faire basculer le jeu sur 2-3 pas, sur 2-3 actions. Et du coup, il sera décisif comme ça au PSG. Ça peut être un nouveau Messi 2.0, on va dire, un peu comme Ronaldo 2.0, quand il est devenu plus buteur que ailier. Donc oui, j'y crois. Je pense qu'il peut repartir de l'avant, il le fait déjà. Et du coup, pourquoi pas aller chercher, tutoyer les sommets d'un Erling Haaland, d'un Kylian Mbappé, qui veulent prendre la place de numéro 1.
Benjamin, t'es pas d'accord avec ça?
Non, en fait, je suis assez mitigé parce que je reviens juste aux bases. Pour moi, c'est que effectivement, Messi, sa qualité football, balle au pied, c'est juste incroyable. Il n'y a pas un joueur qui lui arrive à la cheville. Donc, de ce point de vue-là, c'est déjà le meilleur joueur du monde pour moi. Ensuite, va y avoir un juge de paix. Ça va être pour moi la Coupe du Monde. On a quand même Neymar, Messi et Mbappé. Je pense qu'un des trois peut-être gagnera la Coupe du Monde. Donc, il peut le redevenir à ce moment-là. Mais quand je dis plutôt non, c'est que j'y crois pas trop parce que j'ai l'impression que Messi est déjà à 80-90% de ses capacités. Et pour autant, j'ai l'impression aussi qu'il est à temps partiel. J'ai l'impression qu'il fait une mi-temps par match. Et à la 60e minute, moi, je me demande où est Messi. Et je ne suis pas sûr qu'il arrive à hausser son niveau de jeu, en tout cas physique ou mental, pour y arriver.
Ouais, mais depuis la fin de la MSN, c'était un peu ça au Barça déjà. Alors certes, il portait toute l'équipe. Offensivement, c'était lui le patron. Mais il était déjà assez intermittent. Parfois, tu le voyais, il prenait la balle, il faisait une passe à droite, à gauche. C'était un jeu assez en U, où ça allait à droite, à gauche. On s'ennuyait un petit peu. Et pourtant, Messi était le meilleur. Il a encore gagné des ballons d'or, même en jouant comme ça, en étant un petit peu intermittent. Donc pourquoi pas? Parce qu'au final, il peut lancer des Neymar, lancer des Mbappé, et il va faire ses stats, tu vois, il va faire basculer des matchs. Donc pourquoi pas? S'il est dans un rôle de facilitateur du jeu, je pense qu'il peut redevenir le meilleur du monde. Parce que son jeu n'est pas trop énergivore non plus. Mais effectivement, s'il est trop en retrait, si dans les moments importants il se cache, là oui, il n'y a aucune chance. Mais je pense que c'est possible, parce qu'on parle de Messi quand même. On parle d'un joueur qui a un jeu, tu sais, pas très énergivore. C'est pas un mec qui va multiplier les courses, donc je pense qu'il peut se conserver et avoir encore de beaux restes devant lui.
Je voudrais qu'on regarde les stats de Léo Messi. Alors, contre l'OGC Nice, déjà ce week-end, bon, elles sont parlantes. On sait très bien que les stats ne font pas tout dans le foot, mais quand même, contre Nice, 4 tirs, 2 tirs cadrés, 1 but, 5 dribbles réussis. C'est le joueur qui a le plus réussi de dribbles ce week-end. Donc, les stats ne font pas tout, mais c'est quand même un bon indicateur. C'est des stats qu'on n'a quasiment jamais eu pour Messi la saison dernière, par exemple.
C'est un bon indicateur, mais ça reste quand même faible pour un joueur offensif ou un attaquant. Enfin, le match de PSG Nice, je suis désolé, sur la première partie, la première mi-temps, il y a deux frappes cadrées, deux actions dangereuses. Certes, c'est Messi. Je pense qu'on fait ce débat-là aussi parce qu'il met un coup franc, mais c'est son premier coup franc depuis qu'il est arrivé. Tout Messi qu'il est, peut-être bientôt nouveau meilleur joueur du monde, re-meilleur joueur du monde, on a dû faire rentrer Mbappé à la 55e, 60e minute parce qu'on n'y arrivait pas, parce qu'on était loin des cages et qu'il fallait impulser quelque chose de différent.
Alors, c'est pas que Messi, sur ce match contre Nice, c'est pas que sur ce coup franc qu'on a ce débat-là, c'est que c'est quand même une tendance qu'on a depuis plusieurs semaines. On va à présent regarder des stats depuis le début de la saison. Lionel Messi, 14 matchs, alors toutes compétitions confondues, je vous ai mis là-dessus ces matchs aussi en sélection, parce que ça compte, pendant la trêve, il est parti jouer avec l'Argentine. Mm-hmm. 2 matchs, 4 buts pour Léo Messi, et depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, Paris et Argentine, c'est donc 14 matchs, 11 buts, 8 passes décisives. L'année dernière, par exemple, 34 matchs, 11 buts pour Léo Messi. Voilà, il a déjà
autant de poteaux.
Ouais, c'est vrai qu'en plus il y a eu beaucoup de poteaux. Mais ça, on est d'accord, Benjamin, que c'est quand même un indicateur. On est en octobre et il a déjà quasiment atteint. Alors, il a encore beaucoup moins de passes décisives, mais par rapport à ses stats de l'année dernière, il y a déjà un énorme gap de franchi, non ?
Ouais, très clairement. Pour moi, il est revenu de cet été avec une top forme physique, une top forme mentale, mais c'est pour ça aussi que je dis qu'il est à 80-90%. Si je dis ça, c'est que je pense que quand on parle de meilleur joueur du monde, on va être obligé de le comparer à d'autres joueurs. Je prends tout simplement Mbappé qui, pour moi, il y a même 30% de ses capacités, surtout en ce moment, vis-à-vis de son attitude.
Oui, 30%.
Bah, peut-être.
Ouais. Le voir à 100, ça va.
C'est pour ça que je dis ça. C'est que je pense qu'effectivement, à court terme, avec la Coupe du Monde, Messi peut devenir. Mais je crois plus en Mbappé qui va se remettre à l'endroit, qui va faire les efforts, qui va jouer pour les autres et avec les autres. Et c'est là où, effectivement, Mbappé peut être le meilleur joueur du monde.
C'est vrai que pour aller dans le sens de Benjamin, Jonathan, Mbappé, tu disais, 35 ans, même si ça devient Messi, oui, Messi, même si ça devient Messi 2.0 qui change son jeu, etc., c'est vrai que lui, il a pris de l'âge, et puis derrière, les autres ont progressé. C'est vrai qu'il y a un Mbappé qui a maintenant 23 ans, un Haaland, pourquoi pas, même si un Neymar revient très fort, des joueurs plus jeunes. En fait, il y a cette concurrence-là aussi.
C'est sûr.
Pour devenir très bon, mais moins bon que d'autres plus jeunes.
C'est sûr. Après
Benzema aussi, qu'on peut mettre
Après Messi jouera en Ligue 1 tous les week-ends. Donc la Ligue 1, on va dire que c'est peut-être moins difficile pour lui que la Première Ligue, par exemple. Même si Haaland prouve le contraire, comme quoi les défenses de Bundesliga sont pas si mauvaises. Mais bref, Messi jouera tous les week-ends en Ligue 1. Il fera ses stats. Il aura ses matchs prestige, vitrine de Ligue des Champions. Et tu parlais de la Coupe du Monde. On pense souvent que ça peut mal se passer pour Neymar et Messi à la Coupe du Monde. Si ça se passe mal à la Coupe du Monde, ça va mal se passer après. Ouais. Mais ça peut aussi très bien se passer pour Messi. Il gagne par exemple la Coupe du Monde, on peut faire de la fiction, parce que vu que c'est petit, ça se passe bien pour lui en équipe d'Argentine. Il revient au PSG avec une motivation de dingue, comme limite une deuxième jeunesse, un nouvel appétit. Et là encore, il peut faire une fin de saison avec le Paris Saint-Germain absolument incroyable. Donc si on est sur du petit, sur de la fiction, il peut devenir le deuxième, un meilleur joueur du monde 2.0. Parce que la Coupe du Monde l'aura aidé, ça aura fait un effet levier, disons. Donc, en peut-il, oui, il peut devenir meilleur joueur du monde. Il faut y croire, les amis.
Et sur les raisons là, de ce retour de Messi, c'est vrai que l'année dernière, on ne va pas se mentir, on s'est tous demandé s'il ne nous avait pas envoyé le cousin. Quoi. À Paris, là, on retrouve un peu le Messi de Barcelone par séquence. Et puis surtout, ce que je disais tout à l'heure, il y a aussi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais un langage corporel. On voit des esquisses de sourire. On voit des courses qu'on voyait pas trop l'année dernière. Comment vous expliquez aussi ça ? C'est quoi ? C'est l'intégration ? Il lui fallait une saison pour digérer, oublier le Barça et...
Ouais, très certainement. Là, vraiment, je pense que déjà, il a eu des vacances. L'année dernière, il avait la Copa América. Ouais, mais bon, ça joue aussi, surtout à 35 ans. Donc physiquement, il revient bien. Mentalement, je pense qu'il est revenu plus frais. Il y a cette intégration. Il est sûrement aussi plus heureux à Paris. Puis après, il ne faut pas oublier que dans le jeu, l'année dernière, on avait Pochettino comme coach qui le mettait bien sur l'aile droite.
Là, il remet une pièce dans la machine.
Ah ouais, il remet une pièce dans la machine. Là, il est quand même super recentré. Je le trouve. enfin, il est effectivement protagoniste du jeu. Et effectivement, Messi, à cet âge-là, il a réussi à faire cette révolution, cette mue, et ça lui va comme un gant.
Moi, ce qui me gêne un peu, c'est qu'on oublie souvent l'aspect mental. Il ne faut pas oublier que... alors, il revient tard de vacances l'an passé, et non, en 2021, quand il s'en va, et il ne veut pas partir. Il veut pas partir, il veut rester au Barça, sa vie elle est à Barcelone, ça fait 14 ans qu'il est là-bas, et on oublie souvent qu'il veut pas partir, donc il lui a fallu plusieurs mois pour s'adapter, et malheureusement les premiers mois ont été délicats, donc ça a créé certainement un cercle vicieux mentalement. Là, ça va mieux, il s'est intégré, je pense que Paris, voilà, ça va mieux. Il faut pas oublier que mentalement c'est un joueur qui marche au mental, je pense lui aussi.
Et à 35 ans, c'est pas trop tard pour être le meilleur joueur du monde. Son dernier Ballon d'Or, bah, ça fera 2 ans en décembre. D'ailleurs, le dernier, qui était source de débat, hein, parce qu'il le méritait vraiment,
bon, raison.
L'objectif du jour. Mais ouais, c'est pas un âge qui te semble, Jonathan, rédhibitoire pour...
Non, parce qu'encore une fois, s'il joue assez reculé en facilitateur du jeu, vu son jeu long, vu son jeu court, et 2-3 dribbles à 35 ans, ça va pas non plus le casser. Alors,
mais ça, c'est suffisant pour être le numéro 1, tout en haut, devant les, tu vois, tous les autres.
Moi, je pense pas. Hein. Je reviens sur le terme physique. L'année dernière, en Ligue 1, face à des défenseurs vraiment bien costauds, moi, je le voyais faire un petit crochet, ça passait pas, il finissait sur les fesses. Il faut vraiment qu'il ait quand même un petit peu de physique pour arriver à faire cette petite différence avec le coup de rein quand même.
C'est peut-être le problème du football moderne, c'est-à-dire que les anciens ballons d'or, les ballons d'or milieu de terrain, ça n'existe pas. On veut forcément que ce soit un attaquant qui soit ballon d'or. Peut-être qu'il va reculer encore d'un cran sur le terrain. Déjà, de fait, il est assez bas depuis qu'il est arrivé, même depuis cette saison, il est assez bas sur le terrain. Pourquoi pas, s'il recule, s'il prend moins de coups, faut y croire. Moi, je défends mon argument de toute façon.
Je voudrais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure et la Coupe du Monde avec Jonathan. C'est vrai que on le sait, c'est une saison à part, cette Coupe du Monde qui arrive le mois prochain. Maintenant, ça y est, on y est, les gars, ouais. Mois d'octobre. Comment toi, tu vois, Benjamin, cette Coupe du Monde? Parce qu'il y aura forcément un truc, c'est qu'il y a les trois stars devant. Au milieu, il y en aura un qui sera champion du monde. Donc, il y aura au moins deux, voire trois déçus si c'est ni le Brésil, ni l'Argentine, ni la France. Toi, tu vois aussi un Messi, qui soit champion du monde ou pas, d'ailleurs, faire une deuxième rentrée et rester motivé. Moi, j'ai du mal à l'imaginer. Je me dis, le gars, il a 35 ans, il arrive avec l'Argentine, mettons, il fait demi-finale. Qu'est-ce qu'il va faire derrière, c'est fini, non?
Mais ce serait magnifique de voir ça, déjà. Je pense que ce serait une fin en apothéose, mais j'ai déjà hâte de voir un France-Brésil ou France-Argentine, peut-être en demi-finale. Mais je pense qu'après, effectivement, on les ramasse à la petite cuillère.
Oui.
Je suis pas forcément très confiant pour Neymar ou Messi sur l'après-Coupe du Monde. Ça va être très dur de repartir après en janvier sur les pelouses de Ligue 1 comme ça, aller jouer je ne sais où. Non, je ne suis pas confiant en tout cas.
Messi peut-il redevenir le meilleur joueur du monde? C'est le sondage qu'on vous a proposé aujourd'hui sur le compte Twitter de BFM Paris Île-de-France. Et pour vous, c'est oui en majorité, 63%. C'est Jonathan qui dit ce premier duel. Mais voilà, la voix de la raison n'est pas toujours celle du plus grand nombre.
Exactement, la majorité n'a pas toujours raison.
Exactement, nous verrons ça. Merci en tout cas d'être avec nous. C'est Cop Paris qui revient dans un instant pour notre deuxième thème de cette semaine. On s'intéresse à Hugo Ekitike. Il était titulaire avec Léo Messi cette semaine, ce week-end contre Nice. Match difficile pour la recrue arrivée du Stade de Reims cet été. Match difficile, oui, mais il avait très peu joué auparavant. Est-ce que c'est une gestion qui est à remettre en cause? Est-ce que Hugo Ekitike n'est pas le seul responsable de son match raté samedi? C'est notre débat dans un instant avec Benjamin et Jonathan. Attention. Cop Paris, comme tous les lundis sur BFM Paris, Île-de-France, votre demi-heure d'actu et de débat autour du Paris Saint-Germain, toujours avec Jonathan Ferdinand, journaliste à Oh My Goal et Passion Saint-Germain, et Benjamin Potier, supporter du Paris Saint-Germain. C'était l'attraction du week-end, Hugo Ekitike, titulaire avec le Paris Saint-Germain contre Nice, l'attaquant recruté de Reims cet été, pour 35 millions d'euros, données importantes quand même, on y reviendra. Une première décevante, le jeune attaquant est-il mal géré depuis le début de la saison? On regarde ses stats contre Nice et on en débat dans un instant, donc pour cette première titularisation. 59 minutes de jeu, remplacé par Kylian Mbappé, aucun tir, un dribble réussi et 94% de passes réussies, plutôt une bonne stat, mais il a eu peu de ballons, hein, il a eu 30 ballons, on parle là de 18 passes. Déjà, est-ce que tout le monde est d'accord, malheureusement, sur son match, sur le fait qu'il ne fait pas un bon match?
Oui, clairement, on ne peut pas dire le contraire.
C'est plein ça. De bonne volonté, mais c'est pas pour autant qu'il fait un bon match, ouais.
Alors déjà, il y a quelque chose, je ne sais pas si ça fait partie pour vous de l'explication. Messi, Neymar, moi j'ai trouvé qu'ils n'ont pas fait trop d'efforts pour jouer avec lui. Quoi. C'est pas, on pourrait se dire, bon, il y a les deux anciens, ils vont le mettre en confiance, lui donner un peu la balle et tout. J'ai plutôt eu l'impression que c'était un peu l'inverse. Ils ont joué ensemble, ouais. Et puis là, le petit...
Leur petite relation de couple exclusive, là.
Ouais,
ils partagent pas.
Ouais, ouais,
partagent
c'est ça,
pas.
C'est, pas
partage, c'est vraiment... tiens, je te donne
non,
mon pain.
Non, est-ce que là-dessus, c'est quelque chose que vous avez vu aussi?
Bien sûr, mais déjà, on le voit depuis le début de la saison avec Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, son intégration est rendue un peu compliquée par cette bonne entente avec Léo Messi. Donc, si c'est le cas déjà avec Mbappé, ça va être encore plus le cas avec Ekitike. Et parfois, j'ai l'impression qu'ils ont même pas confiance en lui. Enfin, que samedi soir, ils n'avaient pas confiance en lui. Bah non, on va pas lui filer le ballon, il va le perdre. Et ça m'a un peu gêné. Et c'est pour ça que je disais pendant la pub qu'il m'a presque fait de la peine. Parce qu'il était plein de bonne volonté, mais on l'a pas servi. Et sur le peu qu'on l'a servi, il n'a pas apporté grand-chose. Donc c'est triste.
Benjamin, d'accord avec ça?
Ouais, je te rejoins sur le fait que ça fasse un petit peu de peine. Moi, j'étais dans les tribunes du parc.
Alors,
j'entendais derrière moi déjà des Guillaume Ekitike, référence à Waro, des choses comme ça.
Oh, ils sont durs.
J'ai trouvé ça un petit peu dur. Ouais. Mais ouais, effectivement, Neymar et Messi n'ont pas vraiment beaucoup joué avec lui, comme ils ne jouent pas vraiment beaucoup avec... leurs autres coéquipiers, donc il semblait un petit peu perdu, peut-être du mal dans son placement. Moi j'aimais bien au début, je reviens un peu à Waro, mais ce rôle de pivot qui est si cher à Kylian Mbappé.
Mais, justement, ouais. Passe D, merci. Pendant la trêve, souvenez-vous, Kylian Mbappé, après le match contre l'Autriche avec l'équipe de France, il dit devant les médias, en résumé, c'est super en équipe de France, je joue avec un pivot, avec un numéro 9, je peux tourner autour, je me sens beaucoup plus libre. Sous-entendu, à Paris, je suis moins libre. Il dit même, à Paris, on me demande de jouer en pivot. Campos, qui était venu sur RMC, avait dit effectivement, on avait promis à Mbappé de recruter un grand numéro 9, type Lewandowski par exemple, on n'a pas réussi. Est-ce que, alors certes c'est pas des Lewandowski, mais est-ce que Ekitike, c'est pas un petit peu le seul joueur qui a ce profil devant qui pourrait jouer avec Mbappé? Et ce que je veux dire, c'est que sur le match de samedi, est-ce que c'était pas le bon moment de titulariser Ekitike avec Mbappé, justement, peut-être pour tenter une relation technique un peu plus intéressante que Messi, Neymar avec Ekitike?
Au moins les voir jouer ensemble, je pense que ça peut être intéressant. En plus, apparemment, ils ont une belle relation en dehors du terrain. C'est vrai qu'on peut imaginer Ekitike dévier des ballons, des choses comme ça. Après, pour moi, justement, Ekitike n'est pas un pivot. On l'a vu à Reims la saison dernière, c'est plus un avaleur d'espace qui peut même partir du côté. Et c'est là aussi où je l'ai trouvé un petit peu friable. Il a eu beaucoup de mal à prendre le jeu à son compte, à faire un petit peu de différence. Je pense qu'il a peut-être pas gagné un duel en faisant un dribble. Et puis le plus gênant, c'est de faire zéro frappe. Pour moi, pour un attaquant, c'est rédhibitoire.
Ouais. Il était assez bas aussi dans son placement. C'est difficile de le trouver. Il a beaucoup bougé en début de match. On le voit, il court à droite, à gauche. Il sait pas trop où aller. Il a pas trop de repères. Et donc, évidemment, l'argument de faire jouer avec Mbappé pour créer une relation, c'est bien. Mais sur le long terme, ça va donner quoi? Je veux bien tenter, mais on sait très bien dans les faits que déjà l'équilibre avec avoir un Ekitike, un Mbappé et avoir des pistons, faut le trouver. Et puis il faut inclure Neymar et Messi. Donc c'est très compliqué de trouver un équilibre. Donc je veux bien créer une relation, même pour la Ligue 1, juste Mbappé et Ekitike. Mais on va faire quoi? On ne peut pas mettre tout le monde. Le problème, c'est ça qu'on ne peut pas mettre tout le monde, malheureusement. Et Mbappé ne veut pas jouer dans l'axe. Donc il y a une impasse. Et moi, de toute façon, je trouve ça, et je ne sais pas si on va donner un peu de recul au débat, mais c'est un peu à l'image du coaching de Christophe Galtier depuis le début de saison.
On peut, en fait, c'est un peu la question que je vous pose. Hugo Ekitike est-il mal géré? Je vous montre la statistique depuis le début de saison, 125 minutes de jeu, mais il y en a eu déjà 59 sur sa titularisation, donc déjà il est sorti tôt, il y en avait 66 minutes avant cette première titularisation. Zéro but, zéro passe décisive. Évidemment, il est rentré, il jouait 4 minutes, 7 minutes par là, etc. Forcément, on a envie de dire, tu as joué 66 minutes depuis le début de saison, tu arrives, tu es titulaire, il n'y a pas beaucoup de repères, il n'y a pas beaucoup de confiance. Il n'a pas été mis dans les meilleures conditions par Christophe Galtier samedi, Ekitike.
Moi, je ne comprends pas. J'ai du mal à lire le coaching de Christophe Galtier. Je comprends que ce soit une saison bizarre, que le mercato se soit terminé tard. Mais un coup, c'est Soler qui va jouer, un coup, c'est Fabian Ruiz, un coup, on remet Vitinha. Donc, déjà au milieu de terrain, j'ai du mal à lire qui est numéro 1, 2, 3, 4. Vitinha, on a l'impression que ça y est, c'est sûr que ça sera lui, alors que défensivement, ça serait bien qu'il s'applique un peu plus. Désolé, Vitinha, une petite balle perdue, mais bon, bref.
Il y a aussi Renato Sanchez, entre deux blessures, il peut revenir faire quelques matchs.
Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a tellement de monde au milieu, on ne sait pas comment ça va être géré. Alors, c'est une saison très compliquée, très particulière. Mais c'est un peu pareil pour Ekitike. On a du mal à savoir où est-ce qu'on va avec ces joueurs-là, la rotation. Est-ce que ça va être est-ce que Ekitike va avoir vraiment que des miettes, ou est-ce qu'on va vraiment créer quelque chose avec lui? Pareil pour les milieux. Donc est-ce que Ekitike est bien géré? J'ai tendance à dire non, mais est-ce que Galtier peut faire mieux? Je sais pas. Je sais pas, parce qu'il a quand même beaucoup de matière devant et il faut en donner un peu à tout le monde. Et Sarabia a fait une très bonne saison l'an passé au Portugal, donc il faut lui en donner aussi un petit peu.
Il joue pas beaucoup plus, le pauvre.
Ouais, moi pour donner du positif sur Galtier, quand même, sur son coaching, ce qui me plaît, c'est quand même le fait qu'il ait reconduit plusieurs fois le même 11 de départ. Je pense que ça, c'est très important. En 2019, on avait eu 110 compositions différentes d'affilée. Ça, c'était juste impossible pour créer quelque chose. Donc il arrive avec un plan de jeu, la défense à 3, on le connaît. Et puis maintenant, on arrive à un gros match de Ligue des Champions, on sait quelle équipe il va aligner. Ouais. Pour autant, moi, là où je peux le critiquer, c'est sur la lecture des matchs. Je trouve que son coaching, il est vachement timide. Je trouve qu'on n'a pas de plan B. Tu parlais d'Ekitike. Moi, j'aurais aimé voir effectivement le duo Ekitike-Bappé en plein match et sortir, pourquoi pas, Messi, puisqu'il était invisible à partir de la 60e minute.
Non, mais il a quand même pris, attention, son courage à deux mains, il a fait sortir Messi. Bon, à la 86e, on se demande un peu à quoi ça sert, mais bah, vous avez une explication peut-être ?
Non, c'est pour... non, sincèrement,
c'est
je sais
qu'il prenne une standing ovation. Enfin, je vois pas aussi, d'autres raisons. Et ça sert à rien, ces changements-là. C'est comme le changement en équipe de France, là, une sélection, Franck Jurietti ou je sais plus. Ok, ça sert à quoi de faire rentrer un joueur pour 4 minutes Ça sert à rien, ça va rien apporter pour le sortant
que
pour l'entrant.
Christophe Galtier, pour en revenir à Hugo Ekitike, est-ce que vous êtes optimiste ou pas? Est-ce que on peut se dire, bon, là, il a été titulaire, c'est pas terrible, mais peut-être on le verra entrer en jeu un peu plus tôt dans certains matchs ou ça risque d'être compliqué quoi qu'il arrive pour lui?
Moi, perso, je reste optimiste. C'est quand même un jeune joueur, il a 20 ans. Je pense qu'il a même pas un an et demi de football professionnel dans les jambes. Avant ça, il a fait une saison à Reims, une demi en Norvège ou Danemark.
Et une bonne saison, hein, je précise, l'année
très,
dernière
très bonne
en
saison.
Ligue 1 avec Reims, 24 matchs, 10 buts, 4 passes décisives avec le stade de Reims.
Puis il faut pas oublier qu'il a 20 ans, il vient d'arriver, c'est une atmosphère totalement différente. On parle de Messi, de son adaptation qui a duré un an. Bah, faut imaginer pour un joueur de 20 ans, rentrer dans ce vestiaire-là, c'est pas facile.
Moi, je suis un peu plus pessimiste parce que j'ai vu d'autres grands joueurs, jeunes pépites, venir et on repart avec de la déception. Donc en fait, tous ces recrutements intelligents, on prend un petit jeune, on va le faire monter et ça va devenir notre futur numéro 1 au PSG, depuis, au moins depuis l'RQSI, j'ai du mal à y croire. Et je vais pas remettre, moi j'aime bien, j'ai une petite spéciale, c'est Arnaud Calimendo. Par exemple, je pense qu'il était peut-être un peu plus prêt que Ekitike pour franchir cette marche, s'imposer au PSG que Ekitike. Après, je dis pas que le recrutement c'est une erreur.
Il y a quelque chose qui interpelle aussi avec Ekitike, c'est le prix qui a été mis, parce qu'on parle de pépite, c'est quand même une pépite à 35 millions d'euros.
Pour un mec qui a 40 matchs pro dans les jambes, c'est le football moderne, mais du coup, ça engendre de la pression, de l'attente.
Il y a un potentiel, 35 millions sur un potentiel, et pourquoi pas, on l'a un peu tous vu quand même avec Reims l'année dernière. Pas forcément scandaleux de mettre autant pour ce joueur, mais si tu le fais pas jouer, ça va devenir compliqué. Quoi.
Ouais, mais c'est pour ça aussi qu'on se posait la question à son arrivée, est-ce qu'il va être prêté tout de suite? Alors, moi, je sais qu'il y avait des articles ou des questions là-dessus. Pourquoi pas, ça aurait pu être intéressant. Là, tu l'as rappelé, 66 minutes en si peu de temps, c'est vraiment rien. Et puis, c'est plus global. Tu parlais de Carlos Soler tout à l'heure, mais Carlos Soler, pour l'instant, il a joué 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, pour un joueur qui a coûté 20 millions aussi. Moi, effectivement, ce genre de coaching, je trouve que ça sert pas à grand-chose. On les met pas en confiance, ils ont pas de quoi s'adapter. Ouais.
À suivre. On retrouvera le Paris Saint-Germain dès ce week-end et on verra si Ekitike aura un peu plus que 59 minutes. On va pas s'emballer, mais déjà s'il pouvait rentrer une demi-heure.
Une demi-heure, c'est déjà bien. C'est déjà une victoire.
Pour lui. Un peu plus. Ouais. Allez, comme tous les lundis sur BFM Paris Île-de-France dans Cop Paris, on termine cette émission en prenant des nouvelles de tous les clubs franciliens. Comment ça s'est passé ce week-end, tous sports confondus. Le récap préparé aujourd'hui par Sam Yahni.
Week-end compliqué pour les clubs de rugby franciliens. Le Racing 92 et le Stade français ont tous les deux perdu leur match à l'extérieur. Les Racingmen combatifs pourtant sur la pelouse de La Rochelle ont tenu la dragée haute aux dauphins de top 14. Mais les joueurs de Laurent Travers ont fini par s'écrouler en fin de match. Score final 24-19. De son côté, le Stade français s'est incliné face à l'UBB 15-10. 15 points bordelais tous inscrits au pied par l'international français Mathieu Jalibert. Les Parisiens parviennent tout de même à décrocher le point du bonus défensif. En foot, le PSG féminin cale en championnat. Quatrième journée et première contre-performance de la saison sur la pelouse du Havre. Khadidia Toudiani ouvre le score pour Paris sur pénalty dès la 9e minute. Bachmann inscrit le second but parisien avant la demi-heure de jeu. Les Parisiennes se dirigent alors vers un match plutôt tranquille, mais les Havraises vont réduire la marque sur corner avant la mi-temps. Le bijou de cette quatrième journée est signé Christy Gavory. De partout, score final. Le Paris Saint-Germain abandonne ses premiers points de la saison et laisse l'OL seul en tête de la D1 à Arkema. Les joueurs du PSG Handball, eux, se sont imposés dans le derby qui les opposait à Créteil. Les Cristoliens ont tenu tête aux Parisiens pendant une grande partie de la rencontre. Puis ce fut une déferlante parisienne. Le club de la capitale a infligé un terrible 12-7 aux banlieusards pour s'imposer finalement 35-26 lors de cette quatrième journée de Star League. De quoi se relancer en championnat 6 jours après la lourde défaite concédée à Toulouse.
Voilà, plutôt un bon week-end pour nos clubs franciliens créatifs. Merci Jonathan.
Benjamin. C'est un mot interdit pour
merci
moi.
Thibaut. Merci beaucoup. Merci à Jordan Le Sueur et Lucas en régie. Merci surtout à vous d'avoir été fidèles au rendez-vous. Comme toutes les semaines, on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de Cop Paris. Bonne semaine et bonne soirée.